peux vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Allez, bonsoir. Alors, bonsoir, j'allais dire qu'est-ce que vous avez à déclarer pour votre défense. Alors, ce soir, on aurait voulu vous parler de ce week-end de folie médiatique là qui vient d'être déversé, mais on attendra pour le faire d'avoir de plus amples détails. Vous parlez évidemment des incidents qui se sont déroulés à Lyon. On va d'abord dire pour nous que en tous les cas pour moi, on m'avait appris à l'école républicaine que la mort d'un fasciste était plutôt une bonne chose d'une manière générale pour la République et la démocratie, puisque d'ailleurs il y a plein de noms dans les rues, il y a plein de noms de nos rues qui portent le nom de personnes et de personnages qui ont participé à la destruction du fascisme physiquement et matériellement, donc ça ne doit pas forcément être quelque chose de mauvais, mais on entrera dans les détails peut-être ou peut-être pas si on a des choses intéressantes à vous dire et des éléments à vous dire, des éléments concrets à vous dire plutôt que de rajouter du commentaire au commentaire et du blabla au blabla. On va vous parler d'un autre...
J'ai quelque chose à dire quand même.
Je t'en prie. Hein.
Parce qu'il y a eu, par rapport à ce qui s'est passé à Lyon, donc, où il y a eu un mort, et il y a eu dans ces rébellions. Donc, c'est un site d'extrême-gauche sur Lyon et qui a fait un très bon article, enfin, qui a publié un très bon article où ils font une rapide liste, rien que ces dernières années à Lyon, puisque Lyon, c'est quand même là où se concentrent les fachos les plus radicaux et les plus violents, à cause du fait qu'essentiellement que la ville est... abrite toute une hiérarchie catholique extrémiste.
Alors à Lyon, c'est formidable, c'est qu'il y a vraiment toute la palette. C'est-à-dire, on va du catholique traditionnaliste qui fait la messe en latin tout en haut, là-haut, sur la Fourvière. Pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, la Fourvière est une église très très haut perché, extrêmement particulière pour ceux qui ont eu l'occasion de la visiter. Vraiment, on a le sentiment de rentrer dans un des trucs comme le Sacré-Cœur ou Saint-Nicolas du Chardonnay, quoi. On sent qu'on n'est pas à la maison, hein. C'est pas la maison de Dieu, c'est pas la maison de Jésus et des humbles. On sent qu'on est dans un truc très particulier et il faut monter des escaliers petit à petit. Évidemment, la Fourvière avait été construite là pour dominer cette capitale. Et puis, ça va jusqu'au néo-nazi le plus bas du front, le plus bourrin, issu en partie, mais pas seulement, des tribunes du stade avec le groupe des ultra-racistes des Bad Guns, historiquement là. Donc ce groupe de néo-nazis qui, à plusieurs reprises, a organisé des concerts extrêmement spécifiques. Hein. Donc on a vraiment là du gros skinhead, du hammer skin, tatoué, bourrin, rasé. Et puis on a, jusque en passant aussi par les différents types de nationalistes révolutionnaires qu'il peut avoir, avec le bastion social ou... la traboule, donc, qui se traduit par des bars ou des tentatives d'occupation pour créer des abcès de politisation avec des clubs de bagarre et tout ça. Et évidemment, tout ça, ça déborde dans la rue. Parfois, ça boit. Parfois, ça ratonne. Et depuis 15 ans, 20 ans, même depuis 40 ans, mais c'est vrai que depuis 15 ans, il y a eu vraiment une grosse pression, ouais, une grosse avec pression. De multiples faits divers qui sont rappelés dans cet article de Lyon. Alors, ça va au coup de couteau, il y a des gens qui ont perdu l'usage de certains de leurs membres, il y a des gens qui se sont fait défoncer gratuitement, il y a des gens qui se sont fait chasser dans les rues lyonnaises, et il a fallu quelques années et une véritable organisation d'autodéfense incarnée en particulier par des groupes comme la Jeune Garde, mais pas que, hein, parce qu'il y a eu des groupes comme le GAL, hein, le groupe antifasciste et anarchiste de Lyon et des environs, puis d'autres groupes qui n'avaient pas forcément de nom, qui n'avaient pas besoin d'en avoir d'ailleurs, qui n'intéressaient pas, mais qui ont fait en sorte que les rues deviennent un peu plus sûres. Il faut rappeler ce que ça voulait dire, hein. Ça veut dire que quand il y avait un événement festif, alternatif ou catalogué subversif dans une certaine partie de Lyon, il fallait faire très attention quand tu rentrais chez toi, il ne fallait pas rentrer tout seul, parce que tu avais la potentialité de te faire, au mieux, emmerder, au pire, repartir avec une tarte. Mais je t'ai coupé la parole.
C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que là, ils recensent toutes les attaques des fascistes depuis le juillet 2019. Il y en a un paquet, hein. Par exemple, il y a eu... Le 8 janvier 26, il y a peu de temps d'ailleurs, un meurtre d'Ismaël Ahali après un traquenard organisé à Lyon. Il y a eu des tas de choses qui se sont passées. Le 5 février 26, il y a eu une agression d'étudiants à l'entrée de Lyon 3 par les militants de la Cocarde accompagnés des militants NR et identitaires. Voilà. Alors, il y a eu tout, il y a eu des mosquées qui ont été attaquées. Il y a eu des locaux politiques, en particulier la Plume Noire,
ouais.
Qui est le local de la Fédération anarchiste à Lyon.
Qui ouais, une librairie historique aussi, ouais.
Qui était attaquée, je crois qu'hier soir, elle était aussi
de nouveau. Ouais, attaquée. À plusieurs reprises. Alors, il y a une fois, elle a été dégradée. Alors, de multiples fois, elle a été dégradée, hein, que ça soit des graffitis ou des jets de peinture sur le rideau en fer, parfois même relever et péter les vitrines. Il y a eu une agression un petit peu plus importante il y a une dizaine d'années où il y avait des gens à l'intérieur. Et puis, rebelote, quoi. Ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, il y a eu des cortèges aussi d'attaqués. Il y a eu des cortèges LGBT ou des prides qui ont été attaqués aussi. Il faut se rappeler, l'année dernière aussi, il y a eu un incident à Paris lors de la diffusion d'un film, Costa Gravas, Le Procès, Z, c'est ouais, ça, Z. Organisé par un groupe de jeunes kurdes et de syndicalistes, où il y a eu des coups de couteau qui ont été mis à syndicalistes. On se souvient que les individus se sont enfuis en disant Paris est nazi, Lyon aussi, hein, ce qui était quand même assez significatif. Et puis qu'on retrouve divers Lyonnais dans les tentatives merdiques de ratonnades merdiques faites par ces individus merdiques qui en plus sont vraiment très très petits bras, quoi. De choper des gens tout seuls par-ci par-là, voilà. Donc forcément, hein, quand on cherche la bagarre, des fois on la trouve.
On la trouve, hein. Ouais, voilà. Voilà. Donc on y reviendra s'il y a besoin.
Alors, tu voulais nous parler d'un autre type de bagarre et tu voulais nous parler d'un dispositif, enfin d'une institution européenne, parce qu'il y en a hein, plein. Ah non, c'est même une institution internationale, parce que j'étais en train de confondre avec oui. Europol.
Faut pas confondre.
Non, là on passe à un autre niveau. Souvent des trucs dont on entend dans les films des années 80 d'ailleurs. les films d'espionnage ou de gangsters, hein, des années 80. Tu veux nous parler d'Interpol. Et oui, ça existe encore. Hein. Ça existe encore.
Tu rigoles. si ça existe encore. Alors,
mais non, on a entendu parler. D'ailleurs, c'est quoi ce truc?
Son siège est à Lyon.
Ah ouais?
Oui. Interpol est connu pour délivrer, entre autres, des notices rouges.
C'est ça.
Hein, des documents d'alerte qui soient publiés permettent d'assurer la traque planétaire de criminels recherchés dans le monde.
Ah vache, planétaire.
Oui, parce que tous les États du monde sont affiliés à Interpol. Il y a 196 États qui communiquent entre eux dans le cadre d'Interpol. C'est-à-dire que c'est les polices, en fait, hein. Les polices de ces 196 États communiquent, entre autres, ils donnent les notices rouges, ils communiquent les notices rouges pour que les flics de n'importe quel État, de n'importe quel pays, eh bien, puissent contrôler aux frontières, puissent contrôler les années et venues de tel ou tel individu. C'est pas forcément aux frontières, d'ailleurs, puisque les gens peuvent avoir des problèmes là où ils sont.
À l'intérieur.
Alors, chaque pays membre, 196, hein, dispose d'un bureau central national qui assure la liaison entre sa police nationale et celle des autres pays pour former le réseau mondial.
Eh oui.
La réseau mondiale de flics. Hein.
Bon, alors... Tu vends du rêve. Hein.
Alors, c'est utilisé... Les notices rouges, c'est vraiment utilisé pour traquer les personnes. Alors, les personnes ne sont pas forcément... ça peut être des gros trafiquants de drogue, ça peut être des gros délinquants. Certains ont été arrêtés grâce à Interpol, c'est très connu. Hein. N'empêche qu'il n'y a pas que ça. Faut savoir que Interpol est accusé de servir comme un outil aux mains de certains États dans le but de traquer et d'arrêter des opposants politiques en dehors de leurs frontières. Alors que l'article 3 de sa constitution, normalement, lui impose un principe strict de neutralité. Bon, le principe strict de neutralité en question est peu respecté.
Alors, ah,
ce qui s'est passé, c'est que des journalistes de Disclose, qui est très connu pour faire de l'investigation, qui se sont mis avec d'autres journalistes de la BBC, mmh. et qui ont montré, et qui viennent de montrer, qu'il y a des régimes autoritaires, tels que la Russie, la Turquie, le Tadjikistan, qui utilisent Interpol pour traquer leurs opposants politiques. Alors, ils l'ont prouvé, ils ont fait, si vous intéresse, vous pouvez aller sur Internet, tout simplement, sur le site disclose.ngo, je crois. Ouais, et là, vous pourrez voir des tas de textes qui ont déjà été écrits. Il y en aura d'autres, certainement. Là, par exemple, je suis tombé sur la Turquie, qui utilise Interpol pour faire la chasse à leurs opposants. Leurs opposants, c'est les Kurdes, évidemment, mais pas que. Hein, puisqu'il y a eu, rappelez-vous, une tentative de coup d'État en 2003, par le mouvement Gulen. Les Gulenistes, donc, ont été chassés par Erdogan. Beaucoup sont en prison. D'autres sont recherchés. Et le régime donc d'Ankara, c'est-à-dire le fameux... Monsieur Erdogan.
Erdogan, ouais.
Le régime a multiplié les demandes de placement sur les listes rouges de ces personnes, alors qu'il n'allait pas le faire, puisque c'était un truc politique, c'était pas un truc...
Quelle est la réponse de la structure? Elle suit les demandes de...
Oui,
d'accord.
Au départ, elle suit. Il y a que quand elle a alerté... Alors, elle peut être alertée par la personne elle-même.
Eh ben non.
Hein, la personne se fait arrêter. On lui demande, elle demande pourquoi. Le flic, c'est pas nous, hein, c'est Interpol.
Bah oui.
Donc la personne. Alors le problème, c'est que quand ça arrive, il faut avoir un bon avocat. Il faut avoir du fric pour pouvoir débusquer ce qu'on me reproche, ce qu'on lui reproche à cette personne qui est arrêtée. C'est pas n'importe qui. Il y a des tas de gens qui sont comme ça en garde à vue, en prison, depuis des mois, sans savoir pourquoi ils y sont, à cause d'une notice rouge. Bon, qui n'a pas lieu d'être, puisque c'était un truc politique.
Tu m'étonnes.
Voilà.
Puis quand t'as une notice rouge, le tampon notice rouge sur le dossier, tout de suite, ça doit prendre des conséquences. Et les flics que t'as en face de toi, ils doivent tout de suite se construire un baratin. Donc quand t'arrives,
tu dis j'ai rien fait. Nous en France, on a les fichiers S.
Exactement.
Mais les fichiers S, c'est pas très important par rapport à Interpol, puisque quand vous êtes fichier S, que vous êtes arrêté à une frontière, il y a eu un copain qui s'est arrêté il y a peu de temps, enfin il y a quelques temps, vous finissez pas en prison. Vous,
non.
Bon. Tandis que là, par rapport à Interpol, vous allez en tôle.
Et en plus, à l'intérieur...
Et vous risquez
d'être expulsé vers le pays demandeur.
Voilà.
Donc en fait, on a des États qui utilisent les moyens individuels et les ressources collectives pour régler leurs problèmes politiques, on dirait, internes et individuels. Ce qui sous-entendrait que la police serait politique. Non, c'est pas possible. Moi qui croyais qu'elle était là pour la justice, incroyable.
Alors, Disclose donne un chiffre. Pour la seule année 2024, au moins 322 personnes qui estimaient leur fichage injustifié ont obtenu la suppression de leur dossier par la commission de contrôle.
C'est énorme.
C'est énorme. Quand on sait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens de le faire, c'est vraiment énorme.
Bon. Ça veut dire que potentiellement, il y a plusieurs milliers de personnes qui seraient dans cette configuration-là, quoi.
Complètement. Alors, dans les notices rouges, il y en a un paquet. Hein. La Russie arrive en tête, l'État russe. 4817, notice rouge, qui était en circulation en septembre 2024. 4817 en Russie. Suivi du Pérou, 4457.
Ah bon?
Eh oui. Suivi du Tadjikistan, 3493.
Wow.
La Corée du Sud, 3262. Et la France, qui arrive cinquième.
Cocorico.
2859.
On n'est pas des...
Qui bat de quatre personnes, qui bat les États-Unis, 2855.
Ouais, mais non, ce qu'à bien se tenir.
Et la Chine, bien sûr, arrive après, 2561, etc. Au total, je crois que là, c'est énorme.
Si j'ai bien compris ce que tu dis, potentiellement, la France recherche plus de personnes que la Chine.
Ah oui.
Donc, elle demande aux pays membres d'Interpol d'arrêter plus de personnes que l'État chinois.
Tout à fait. Sauf que, on suppose, ils n'ont pas analysé, je ne sais pas s'ils peuvent le faire, analyser globalement qui sont derrière les notices rouges. En France, je suppose qu'il y en a beaucoup qui sont liés au trafic de drogue. Je suppose, hein. En Chine.
Yes, mais ne serait-ce que par rapport à la proportion d'habitants.
Quand tu vois,
c'est waouh. Mais évidemment, la Chine est une dictature, donc c'est des méchants. Mais d'accord. Et les gens qui sont recherchés par la France sous notice rouge sont de nationalité française.
Oui.
Ok.
Ouais, ouais.
Ah, bon, on se couchera moins bête ce soir, merci Denis. Il s'en passe des belles, des choses. Il y a 187, il y a quasiment tous les États.
Les États sont membres.
Ok. Et ils ont assez de thunes et assez de moyens.
De toute façon,
ça fonctionne, quoi.
Ça fonctionne.
Il y a une coopération à minima.
Collaboration de toutes les polices des 196 États.
Purée.
Pour effectivement faire la chasse. Alors, vous me direz, ils font la chasse des criminels de guerre, déjà. Radovan Karadzic a été arrêté comme ça.
Oui, c'est des méchants, il n'y a pas de doute.
Il y a aussi Ratko...
Mladic.
Ça, qui est responsable du génocide en Bosnie. Il y a aussi des poids lourds du trafic de cocaïne mondial, tels que Rocco Morabito. Et un chef de la mafia calabraise, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Mais il y a d'autres choses, effectivement, on s'aperçoit qu'en fouillant un peu, eh bien, on trouve des Turcs qui n'ont rien à voir avec la drogue.
Je vous crois.
Sauf qu'ils ont milité quand ils étaient jeunes avec les Kurdes pour que ça se passe mieux pour eux.
Ouais,
et en fait, ils peuvent le payer un jour.
Tout à fait. Voilà, effectivement. Mais ce qui est en plus terrible, comme tu l'as dit, c'est que la mention de fiche rouge Interpol, ben tout de suite ça te classe comme un dangereux terroriste ou quelqu'un ou un grand criminel, etc. Et donc pour faire valoir ces arguments, ça doit être assez difficile. Très bien. Alors ça, c'est à retrouver dans Disclose.
Oui.
Pour creuser et l'article est en accès libre.
Oui, complètement.
D'accord. Ok.
D'ailleurs, il y en a plusieurs. Il y en a un qui, il y a un truc général.
Ok. Dont
je vous ai parlé. Il y a un truc qui sur la Turquie. Il y a un truc sur la Russie. Il y a un truc sur le Tadjikistan que je connaissais pas. Bon, c'est un sacré état, c'est apparemment.
Ouais. Pétrole.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Dictature familiale qui se transmet de père en fils et gros pouvoir d'influence et de corruption. Alors, en partie sur les élites européennes, mais avec un petit bonheur sur les élites françaises, puisqu'il y a eu de nombreux chèques qui sont venus. Par exemple, on se souvient, pour ceux dans les années 90 qui passaient leur temps, comme moi, à regarder la téloche, d'émissions, d'une série des 5 émissions produites par TF1, sur le Tadjikistan et comment dire, la grandeur de ces réalisations, notamment architecturales, puisque évidemment, d'un côté, on avait le pouvoir de l'information avec la thune et le pétrole, et de l'autre, le pouvoir du ciment, Bouygues, qui appartient à TF1, qui pouvait construire des super trucs dans la capitale du Tadjikistan. Mais bon, on aura l'occasion peut-être un jour d'en reparler. Il y a tout un tas de républiques, les fameux républiques en ce temps, là-haut, le Turkménistan, le Tadjikistan, qui détiennent de grandes capacités en énergie fossile. Alors, pas seulement du pétrole, bien sûr du pétrole, mais surtout du gaz. C'est le cas, par exemple, d'Astana. Et peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de faire une série d'émissions sur le gaz, puisque on pense souvent pétrole, à juste titre, dans ce qui peut régir les rapports de force entre les pays et les puissances impérialistes. Évidemment, l'or noir et le pétrole, c'est quelque chose de vachement important pour faire marcher le capitalisme, mais on oublie souvent, parce qu'elle est moins médiatisée, elle est moins... mise en avant la question de l'importance du gaz,
ouais.
Et notamment parce que nous, on n'en a pas du tout. donc on n'a pas trop envie d'en parler pour pas trop que ça sache, mais c'est quand même des choses qui depuis quelques années ont aussi évolué, puisqu'on a modifié la capacité, on a redécouvert des champs gazifères, pardon, d'une part, on a modifié les conditions de transport avec la liquéfaction du gaz, et puis on a construit de nouveaux pipelines, c'est le cas de Nord Stream et tout ça, et puis aussi maintenant on sait produire de l'électricité avec du gaz. Donc c'est une énergie qui est revenue en force sur le son, mais ça on a l'occasion de parler. On va reprendre notre souffle et puis après on va parler d'un autre type de police qui n'est pas très interpolice, qui est un petit peu plus bas du front, mais un petit peu plus moins raffiné. On aura l'occasion de revenir à ça après une pause musicale, si ça fonctionne, s'il te plaît, Camille. Pardon, les Tulls qui interprétaient une chanson des Dead Kennedys, autant dire pratiquement presque les deux meilleurs groupes du monde. Un moment de très bien, voilà. Alors, comme promis la semaine dernière, on avait dit qu'on allait vous raconter, parce que il n'y a pas grand monde quand on a parlé, hein, le procès de la CRS 43, faussement et malheureusement résumé sous le pseudonyme du procès du Burger King, voire des procès des CRS du Burger King. Alors, ce qui est mal fait, hein, parce que le Burger King, lui, il a rien fait, hein, le pauvre, il est resté à sa place. Et puis au Burger King, normalement, il n'y a pas de CRS, hein, les CRS, ils sont organisés en compagnie, hein, en section, ce sont des compagnies républicaines de sécurité, et là, c'est la numéro 43, hein, faut bien le retenir. Donc, si vous voyez des CRS de cette compagnie, hein, du numéro 43, près d'un établissement de restauration rapide, surtout faites demi-tour, parce que apparemment, font très mauvais ménage. À Reims, on a la 33. Là, la 43, je sais pas où c'est. J'ai pas pu trouver où c'était. J'ai pas beaucoup cherché quand même, mais je vous le dis. Alors, ces CRS donc étaient accusés, hein, le 1er décembre d'être rentrés dans cet établissement et d'avoir défoncé une vingtaine de personnes. Il aura donc fallu 7 ans. Avant que
neuf d'entre eux soient identifiés.
Ouais, alors d'aboutir à un procès, hein, d'avoir une instruction et de pouvoir les reconnaître. Il faut noter que pendant 2 ans, la hiérarchie policière a refusé de donner le nom du personnel impliqué. Or, on va dire que les images qu'on a tous vu, qu'on a vu, hein, quand on pense à cette affaire, elle suffisait à elle-même pour déclencher ne serait-ce que quelque chose, quoi. Donc il y a eu véritablement comment dire, une rétention de la part de
c'est
de
ce la part. C'est ce qui se passe à chaque fois, quasiment.
Tout à fait. Alors là, il y a eu aussi une difficulté pour obtenir le contexte, le contour plutôt de l'intervention policière, puisque normalement l'ensemble des conversations et des ordres sont enregistrés à la fois dans la compagnie, mais aussi dans le PC central de sécurité. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues. Il reste quelques traces, on a notamment le nom, mais on n'arrive pas à trouver qui c'est. À un moment, un gradé qui dit « Défoncez tout ce qui se présente à vous, hein, ». voilà. Au moins, les choses sont claires. Et il faut le rappeler, hein, dans la loi, l'usage de la force est conditionné par une nécessité et une proportionnalité. C'est ce qui fait que l'usage de la force est autorisé par justement les forces de l'ordre. Voilà. Alors, on vous a raconté, hein, le premier jour, hein, je crois, la fois dernière, où on a...
Où ils sont mis en uniforme.
Tout à fait. Tout à fait, ils sont venus en uniforme avec les décorations. On leur a expliqué que non, ce n'était pas possible. Ils étaient là devant un tribunal. Et lorsqu'on demande à ces individus de se changer, leur avocat leur explique que ils ont l'autorisation de leur chef de service et ils sont en service. Alors, ils sont en service, c'est-à-dire, oui, ils sont en service, ils sont même venus avec une voiture de fonction. Alors, peut-être qu'ils sont même sur leur temps de travail, hein, qui sait. Ça se trouve, si ça dure longtemps, ils vont faire des heures supplémentaires. Ça va être intéressant pour eux. Donc, ça vous donne déjà le niveau un peu de ce qu'on a comme de gens qui sont en capacité d'autoreprésentation et de ce qu'ils vont de ce qu'ils vont poser du rapport aux victimes et du rapport aux citoyens, hein, qui sont censés protéger, défendre et servir.
Alors, je voudrais vous parler quand même de leur commandant.
Oui.
Hein, le fameux Gilbert Siniscalco, qui a affirmé « Aujourd'hui, je pense que je ne suis pas à ma place en qualité de témoin. J'aurais dû être aux côtés de mes agents en tant que prévenu, comme auraient dû être d'autres personnes de la chaîne hiérarchique. » Alors, bon, il dit ça, le coco, sauf que Halimi, l'avocat, et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sou, il dit, mais c'est encore possible, monsieur, si vous voulez, vous pouvez vous faire inculper, vous pouvez être jugé en même temps, puisque la loi le permet. Alors là, silence, il est emmerdé, le chef en question, finalement, il se tourne vers son avocat, le fameux Linard, qui lui, bon, il rejette la proposition sans discuter. Voilà. L'incident est clos. Mais c'est quand même absolument incroyable, quoi.
Tu m'étonnes. Alors oui, prévenu au premier jour, c'est brigadier chef à l'époque, donc c'est celui qui va entrer et qui va commander ses hommes. Il est major, hein, maintenant, donc il est monté d'un cran, hein, comme quoi, hein, ça sert toujours de tabasser, hein, si c'est pas bon pour vous, c'est bon pour eux. Et, lui, il va nous proposer un concept, hein. Alors, il a quand même quelques petits... Il dit qu'il se reconnaît pas, il a presque honte et tout ça. Et il va nous proposer un concept qui va dénommer l'effet tunnel. Alors voilà. Il dit, c'est vrai qu'en voyant la vidéo, le manifestant a pas l'air très menaçant. C'est pas ce que j'ai vu à ce moment-là. Hein. Alors, ça faisait plus de 12 heures qu'on était sur le terrain. Bon, voilà. J'ai un espèce d'effet tunnel. Je me suis focalisé sur mon casque. Voilà. Et on se focalise sur un point et on avance. Voilà. C'est, on regarde pas sur les côtés, hein. On rentre, avec la lumière. Alors, c'est un métier, hein. Peut-être qu'on apprend cet effet tunnel dans le métier, hein. C'est assez incroyable parce que on a des gens qui assument pas, en fait, qui pourraient avoir des regrets, dire on a déconné, on s'excuse, désolé, etc. Mais non, il y a toujours des excuses, il y a toujours du concept, il y a toujours du contexte. On était fatigué, ouais, on avait pas mal au bras apparemment. on a eu peur. Faut changer de métier si t'as peur, parce que ça fait partie de la gestion du stress et la gestion de la peur quand on est CRS. On est capable de mettre sa vie en jeu, en péril, pour défendre ce qu'on nous a demandé de défendre. Enfin, c'est quand même, c'est pas, on n'est pas en train de planter des carottes. Là, c'est ce qui fait qu'on est armé et qu'on a des moyens, en l'occurrence, quoi. Donc voilà,
On va terminer quand même par la procureure qui m'a fait sourire. Marie Dubarry de la Salle.
C'est quoi, comme, c'est une race de chien, non? C'est le nom du procureur.
Ouais.
D'accord.
Restée la procureure, restée discrète pendant les 3 jours d'audience. Elle a livré des réquisitions fermes. Bon, pas fermes, puisqu'ils ont du sursis de 6 mois à 20 mois de prison avec sursis, mais c'est demandé, hein. On le saura le 17 mars combien ils auront. Mais on se doute bien qu'ils auront moins. Ça m'étonnerait qu'il y ait une surprise. Alors, je la cite donc, cette procureure, qui dit « Ce procès n'est pas un procès global. Ce n'est pas le procès de la police, avec un grand P. C'est le procès d'actes individuels commis par 9 hommes. »
C'est incroyable. C'est le fameux acte visuel commis en groupe.
les 9 hommes qui ont été, identifiés.
Mais non, mais tu comprends pas le concept. C'est comme le football. C'est un sport individuel. Non, c'est comme le cyclisme, pardon. C'est un sport individuel, mais ça se court par équipe. Tu vois, c'est ça le truc. Ah mais oui, mais c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé, comment dire, y assister, parce que il y a dû quand même avoir des moments particulièrement savoureux. Je pense au deuxième jour, le quatrième prévenu, hein, qui est un homme qui commence à avoir de la bouteille, hein, avec sa petite moustache et lunettes. Et bon, ça fait 20 ans qu'il est dans les CRS, donc il sait de quoi il parle. Hein, on lui dit monsieur, on vous reproche d'avoir porté des multiples coups de matraque sur donc Nathan, l'un des individus, sur Manon et sur sept ou deux victimes qui n'ont pas été identifiées et donc qui n'ont pas requis contre vous, mais qu'on voit sur les menées. Et c'est quoi votre objectif? Pour moi, ça va, j'ai jamais touché la tête. non, mais si, quand même, il y a monsieur là qui a été touché à la tête. Ah ouais, mais ça, c'est avec le mouvement, c'est pas pour minimiser, mais il y a rien de cassé, hein, c'est que des bleus. Hein, vous voyez, c'est la fameuse, l'ancienne police, la police historique, celle qui faisait avec le bottin, celle qui faisait bien, on voyait pas les coups, c'était bien fait. Alors, il demande, mais c'est quoi l'objectif de ces coups, monsieur? Très dignement, il dit, vider l'établissement pour faire partir. Bah oui, d'accord, mais y en a un qui est allongé, il peut pas partir. C'est pas comme ça, vous lui avez expliqué, vous auriez pu l'empoigner et le projeter dehors, à la limite, si on comprend, vous êtes énervé, que vous avez envie de s'asseoir. Il fait, non, parce que je devais libérer, je devais libérer le Burger King. Alors on va lui mettre une plaque, je pense, que la société Burger King va lui mettre une plaque à la glorieuse CRS 43 qui a libéré le Burger King le 1er décembre 2018, quoi. Alors, la présidente essaye quand même de lui tendre la perche pour voir. Vous comprenez que les personnes dans le Burger King, elles se sentent victimes. Enfin oui, je peux concevoir que c'est des victimes, mais elles n'avaient rien à faire dans ce Burger King. Pour moi, c'est des casseurs, c'est des pilleurs. Il y a plus de manifestants passé 17h. Et donc, pour moi, les coups sont nécessaires pour faire partir des individus hostiles. Alors voilà, dans la même phrase, il peut reconnaître que ce sont des victimes, mais ce sont des individus hostiles. C'est quand même au niveau de la réflexion, c'est quand même terrifiant, quoi. Alors voilà, le prévenu numéro 5, il est 10h30, donc il vient d'entendre son compain, son collègue se fourvoyer, enfin vraiment être ridicule, quoi. Mais il est digne, il tient la ligne, hein, on est CRS, on tient le coup, donc on a obéi aux ordres, on a fait notre travail. On croyait que ton travail, c'était d'assurer la sécurité, de protéger, pas de cogner, mais bon, apparemment, ça fait partie du travail. On a fait notre travail, mais on l'a pas bien fait. On regarde des images, hein, évidemment. On regarde des images, hein. C'est pas on regarde ce que lui, il a fait. Hein. Ouais, il y a des coups en trop. Hein, mais bon, c'est pas violent par rapport à la journée qu'on a eue. On ose imaginer ce qu'il a fait ce jour-là, du coup. On attend par rapport à ce que j'ai déjà fait, tu vois, on attendait qu'il ait dit ça. Bon, il y a peut-être des coups de tonfa en trop, c'est vrai. Hein. On peut pas le nier en regardant la vidéo. Mais bon, bien sûr, oui, c'est des victimes, mais un peu comme nous. On est un peu tous des victimes cette journée-là. Et des excuses, bah j'en ferai pas. Voilà. Et ils ont cogné un journaliste, identifiable.
Ouais.
Et on lui dit, mais là, vous voyez bien que c'est écrit presse. Pourquoi voilà. Et il dit, ouais, on a eu tellement affaire à des journalistes qu'on n'était pas. Hein, il a rien à faire là, hein, alors il faut qu'il se pousse, quoi. Je sais plus ce qu'il me dit. Il me dit, ouais, je suis journaliste, je sais pas quoi. Donc, je lui donne un coup pour vérifier. Enfin bon, journaliste ou pas, il faut qu'il dégage. Voilà, c'est tout. Moi,
Ah Ah oui, effectivement, ça devait valoir le coup comme procès.
C'est exactement quoi. C'est ça. Après, voilà, il est 19h, il n'y a plus de manifestants à cette heure-là. Ah, on est content, on a gratté 2h
par 17h
à l'autre. Et puis, de toute façon, c'est des gens qui sont rodés aux techniques zadistes. Bah oui, hein. Ça veut dire quoi, ça, monsieur? Bah, ça veut dire ils se mettent sur le dos. Il bouge pas. On attend les coups et on filme. Il fallait les dégager de là. Alors, bon, le président, il essaye de comprendre parce qu'il se retrouve quand même devant un truc en disant, putain, la vache, waouh, c'est pas une légende, hein, c'est vraiment des gros bœufs. Alors, il dit, vous avez parlé de gestes virils que vous avez donnés. C'est quoi pour vous un geste viril? Bah, c'est des gestes virils. C'est-à-dire, avec de l'énergie, quoi. Voilà. Et vous avez eu une autre procédure en 2015 devant l'IGPN. Ouais, c'était un accident de la route à Calais. Ah bon, vous avez été blessé? Ah non, moi j'ai rien eu, c'est la voiture qui a roulé sur le pied d'un migrant.
C'est terrible.
Troisième prévenu numéro 6 qui met au sol un manifestant non identifié en lui donnant des coups de matraque, des coups de pied à la tête de la victime et diffusé évidemment dans une salle d'audience. Il regarde ça et le président lui demande: qu'est-ce que vous pensez de vos jets? Ouais, moi personnellement, je veux dire, je trouve que je fais ça un peu trop vite mais pas trop mal. Ah bon, ces coups sont nécessaires? Ouais, alors moi, je vais vous dire, hein, être un bon flic, c'est un flic qui imagine toujours le pire. Comme ça, on n'est jamais déçu. Voilà. Moi, ce jour-là, j'ai fait ce pour quoi je suis payé. Hein. On a défendu la France. Ouais. Tout le monde nous a lâchés ce jour-là. Hein. La police nationale, elle aurait pu venir s'excuser de voir comment elle nous a traités. Hein. Nous, on a fait la merde. On a ramassé tout ce qu'il y avait derrière. Hein. Waouh. J'ai donné des coups pour voir ses mains. C'est un vieux réflexe de policier. Je comprends pas, monsieur, vous tapez sur la tête. Oui, non, mais c'est pour qu'il lâche. Pour que je vois ses mains. Donc voilà, hein, tu l'as dit, on va pas forcément aller jusqu'au bout, mais ça a été pendant 3 jours. Pendant 3 jours, avec évidemment un avocat de la défense, hein, de la police, qui est, comment dire... toujours le même, hein.
Le fameux Linard.
Tout à fait. J'étais en train de regarder les interventions des supérieurs et notamment le commissaire qui était un des supérieurs hiérarchiques de la CRS 43 et qui n'a pas été incriminé ni prévenu. Puisqu'un non-lieu a été prononcé à son égard au cours de la formation judiciaire. Commissaire Herd, qui donc le troisième jour est cité comme témoin par la défense et qui vient en expliquant que si on n'avait pas été là ce jour-là, l'Élysée serait tombée. Enfin, peut-être pas la République, mais l'Élysée aurait été saccagée. Moi, j'ai donné aucun ordre. C'est une intervention, certes musclée, mais il n'y a pas eu de blessés. Alors, moi, j'ai pas constaté de violence rance. Hein. Bon, ils ont pris quelques coups de matraque, quoi, mais ils se sont relevés, quoi.
Ouais.
Sur le moment, on est un peu dans un effet tunnel. On voyait là, on a vraiment toute la culture. Alors, bon, je reviens pas sur cet effet tunnel qui apparemment a fait Florès. Il faut déposer le concept, hein, les gars, hein. Il y a moyen de gratter des sous. Mais on est vraiment sur, bon, j'ai mis une claque dans la gueule à mon gamin, mais finalement, c'est pas très grave, ça lui a appris. Ouais, j'ai pas touché la gamine, je lui ai juste fait des papouilles, quoi. C'est pas méchant, quoi. Ça, hein. Vous voyez, on est vraiment dans toute la merde qu'on est capable de balancer sur ce qu'est la violence. Ou pas. Alors tu l'as dit, hein, Liénard, il a fait ce qu'il a pu et ce qu'il a voulu, quoi. Alors c'est intéressant, c'est que Halimi, à un moment, il explique, c'est mais monsieur, vous êtes donc un travailleur, hein, Je sais qu'il existe des syndicats dans la police, et plus particulièrement chez les CRS, syndicats qui, évidemment, on les entend assez souvent. Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé utiliser votre droit de retrait, si vous considériez que vous étiez allé trop loin et que vous pouviez plus faire correctement votre travail? Vous aviez le droit à un droit d'alerte, vous avez le droit à un droit de retrait, vous êtes un fonctionnaire. Si en plus, vous le savez, le droit du travail, c'est souvent des gens comme ceux que vous cognez qui le défendent. C'est ce qui vous permettait justement de vous mettre en sécurité, vous, et de pas mettre en danger les gens sur lesquels vous intervenez. Le commissaire lui dit « Je suis un CRS, je n'ai pas le droit de me plaindre ». On n'avait pas l'impression que c'était ce qui s'était passé au cours de ces quatre derniers jours. Et donc, Liénard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il a pu pour surtout discréditer les manifestants et les victimes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit voilà, hein, on a pris en otage ce tribunal. Pour ce procès, on vous a sorti du chapeau un sociologue qui est venu nous donner sa science du maintien de l'ordre. Je vous ai amené quelque chose, c'est un pavé. C'est ce qu'ont reçu les CRS. Ouais. Voilà. Mes clients, ils ont été très marqués par la victimisation de madame qui raconte a été tabassée à longueur d'interview. Ils sont même traumatisés par la victimisation. T'imagines un peu les petites choses fragiles. C'est vraiment... Pouf, faut vraiment changer de métier. Hein, parce que si prendre des pavés et puis être victimisé par une victimisation, ça devient ça. Alors après, il explique hein, qui vient manifester avec un casque de moto et un masque à gaz à 19h. Ça y est. On a la bonne heure. C'est dit, alors que depuis 11h, 2000 grenades tirées, 400 coups de LBD, au secours. Je comprends pas. Ils ont des masques à gaz. Je peux pas considérer que ce sont des gens gentils. Je les considère nécessairement comme délinquants. Révolution par Maître Liénard. Maintenant, on a le jugement par matériel. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de faire d'enquête ou d'écouter les arguments. Il suffit juste qu'on vide vos poches et votre sac à dos. Et selon le matériel dont vous disposerez, vous saurez si vous êtes un délinquant ou pas. Alors apparemment, la masque à gaz plus casque de moto égale délinquance. Donc ouais. Attention, amis motards. Pas de masque à gaz quand vous prenez votre bécane, sinon, et après 19h, sinon, c'est obligatoirement des vacances. Voilà, ça a vraiment été un festival malheureusement risible si on le regarde du côté de l'absurdité, de la grossièreté sur lequel peuvent être les CRS, mais terrible du côté de ceux qui... Justement, ce 1er décembre, encore, c'était le début des gilets jaunes. Ils n'ont pas pu véritablement comprendre ce qui s'était passé. Et pour certains, c'était leur premier contact avec la police. Même pour certains avec qui j'ai discuté, c'était leur première manifestation, quoi. Ils avaient le sentiment en plus d'exprimer des choses qui étaient particulièrement légitimes, qui étaient celui de vouloir de la dignité. Incarné dans la volonté à la fois de pouvoir vivre de son travail et d'avoir une possibilité d'amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi une reconnaissance sociale et politique de leur rôle dans la société et de la prise en compte de leur avis. Et ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont subi, c'est « ferme ta gueule ». Et prends-en une, quoi. Donc c'est clair que pour un grand nombre de personnes qui ont été pour la première fois en contact avec la violence policière, alors il y a évidemment les cas les plus spectaculaires, ceux qui ont perdu un œil, une main, un pied même parfois, mais là c'est toutes ces petites violences là de gens qui n'ont pas compris, à qui on n'a pas expliqué, etc., qui ont subi un véritable traumatisme et qui pour certains ne sont jamais retournés aller manifester. C'est vraiment.
C'était le but, hein.
C'était le but. Se manger un mec comme Liénard et se manger ces individus qui sont en face d'eux, qui sont payés en plus par notre fric, ils sont incapables de réfléchir plus loin que le bout de leur nez, ne serait-ce que présentant des excuses. Alors, non, je suis désolé, mais c'est des choses qui nous dépassent, vous et moi. Enfin, voilà. Et, On est vraiment bien servi et on est vraiment en sécurité dans ce truc. Alors, si ça va moi, Tu l'as dit, sans suspension, hein, évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir 6 mois de prison avec sursis et toujours CRS. Youpi tralala. Hein. Alors, il y en a un qui avait déjà écrasé un migrant, hein, donc peut-être que ça va aller plus loin. Même 20 mois de prison avec sursis et toujours être CRS, sans interdiction d'été. On verra bien le rendu.
Le rendu, le 17 mars.
Le 17 mars, dans 15 jours. On vous fera un plaisir de vous expliquer, de vous faire le rendu. Voilà. Une dernière petite histoire de finir.
Ah, vous parlez de la justice cette fois-ci. L'affaire Adama Traoré, je pense que ça vous dit quelque chose. Si ça vous dit rien, bah, c'est tout simplement une violence qui a abouti à sa mort. Des gendarmes donc l'ont étouffé du poids de leurs trois corps. Ils étaient trois. Le jeune homme dit avait du mal à respirer, il l'a dit. Puis il a fait un malaise durant le trajet vers la gendarmerie de Persan. Persan, c'est dans le 95, ouais. Avant de mourir dans la cour de la caserne. Alors, il y a eu des procès. Ça dure depuis 10 ans, cette histoire.
C'est ça.
Puisqu'il y a eu jusqu'à la cour de cassation qui a confirmé le non-lieu en faveur des trois gendarmes, le 11 février. Ça date de 2016, donc c'est bien ce que je vous disais, c'est 10 ans. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, la famille, va se tourner vers quoi? Vers la CEDH, ouais, la Commission européenne des droits de l'homme, pour pouvoir obtenir au moins réparation. Si on peut en parler, de réparation, je ne crois pas. Mais l'affaire Traoré, c'est quand même emblématique, puisque sa sœur a constitué un comité de soutien depuis 10 ans.
Adama, oui.
Adama, qui
Assa.
Assa.
Assa, c'est le nom de la sœur.
Oui. Et qui a permis qu'un certain nombre de familles victimes des violences policières puissent enfin s'organiser.
Et en fait, c'est terrible parce que le non-lieu, c'est une décision judiciaire qui met fin,
ouais,
à une procédure pénale sans renvoyer l'individu, là où les individus qui sont mis en cause, faute de charges suffisantes. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de procès. Donc le non-lieu, il est prononcé par un juge d'instruction ou par la chambre de l'instruction à l'issue d'une enquête, et lorsque les éléments recueillis ne permettent pas de poursuivre la personne mise en examen devant un tribunal, quoi. Il peut être partiel, il peut être total, il peut porter que sur une partie des accusations ou sur l'ensemble, quoi. C'est même pas un acquittement ou une relaxe, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement public sur la culpabilité de la personne, et que donc les personnes qui sont mises en cause restent innocentes. Donc les gendarmes qui sont mis en cause, on estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir faire un procès. Il n'y a pas assez... Qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour que ces gens viennent et à s'expliquer sur le fait que une interpellation débouche sur le décès de la personne qui est interpellée, ouais, pour la justice, visiblement. La vie d'un jeune homme noir à Beaumont-sur-Oise. C'est à Persan, pardon. Non, c'est à Beaumont.
C'est à côté, hein.
Ouais, c'est à côté, ouais. La vie d'un jeune homme noir à Beaumont-sur-Oise ne vaut pas la peine qu'on puisse justifier ou expliquer pourquoi on décède entre les mains de la gendarmerie, voilà.
Bon, on va peut-être y aller, oui, on y va. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Ouais, espérons-le un peu plus joyeuse.
Cochi, tu nous as fait rire.
peux vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.